Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Et voici la grande édition de nos informations dominicales vespérales avec Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, au Nord Kivu, les combats ont repris ce dimanche matin entre les FARDC et les rebelles du M23 dans le territoire de Masisi. Selon plusieurs sources locales, les rebelles ont attaqué les positions de l'armée sur au moins 4 fronts dans leurs environs de Sake à une trentaine de kilomètres de Goma. Nord Kivu encore, quelques familles de déplacés de Masisi Centre et ses environs commencent à retourner timidement depuis 2 jours maintenant. Selon la société civile de Masisi, ce retour est motivé par les conditions humanitaires précaires dans les milieux de refuge, mais aussi par une certaine accalmie relative observée à Masisi Centre. L'invité de ce journal est le coordonnateur du Forum des engagés pour le développement durable en Ituri. John Lufukaribo parle du programme de protection de l'environnement dont le but principal est de proposer des mécanismes pour atténuer les problèmes de réchauffement climatique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, les combats ont encore repris tôt ce dimanche entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans le territoire de Masisi. Selon plusieurs sources locales, les rebelles ont attaqué les positions de l'armée sur au moins 4 fronts dans les environs de Sake, à une trentaine de kilomètres de Goma. Pendant ce temps, dans la chefferie de Bachali, à l'ouest de Kichanga, la population s'est dit préoccupée par l'avancée des rebelles vers les territoires de Walikale. Des détails avec Pierrot et Lamanji.
C'est autour des 6 heures locales que des tirs sont entendus dans les localités de Kingi, sur l'axe Sake-Kiroliro-Kichanga, dans les villages Maléé et Nenero, sur l'axe Sake-Mushaki et aussi dans les villages Karuba, sur l'axe Sake-Gungu. C'est dans les collines surplombant, en tout cas, la cité de Sake. Ces combats se sont poursuivis toute la matinée, indiquent ces sources. Certains contacts militaires dans la zone précisent que les FARDC et leurs alliés ont réussi à repousser les rebelles, notamment du village Karuba, que ces derniers venaient déjà d'investir en milieu de cette semaine. Pendant ce temps, nos sources présentent des préoccupations au sujet de la situation sécuritaire sur l'axe Kichanga-Mweso-Pinga. Là, selon ces sources, après la prise de Mweso en début de la semaine, les rebelles ont déjà avancé jusqu'à Kashuga et au village environnant dans le groupement de Bachalumokoto. Des sources craignant que ces rebelles n'avancent jusqu'à Pinga, territoire de Walikale, dans cette zone où ils rencontrent moins de résistance. Rappelons que cette reprise des combats intervient alors que le M23 s'est engagé vendredi devant le président d'exercice de la CIRGL a cessé les hostilités dans l'est de la RDC et c'est là dès le mardi 7 mars à partir de 12h.
Le chef de l'État français demande le respect du chronogramme pour la sortie de crise et le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC. Ce chronogramme proposé par la médiation angolaise consiste en un cessez-le-feu, le cantonnement des militaires du M23, leur insertion et le déploiement des forces régionales. Devant la presse ce week-end à Kinshasa, Emmanuel Macron a précisé que toutes les parties prenantes se sont mis d'accord que ce cessez-le-feu entre en vigueur mardi prochain. Ceux qui les violeront subiront des sanctions, prévient le président français. Ces propos ont été recueillis par Michel Kifindangoy.
Que le chronogramme qui a été décidé à partir du 28 février soit dûment respecté. Cessez-le-feu sur le terrain, mécanisme de vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23 à votre sol, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales, nous serons évidemment mobilisés pour aider au financement, et désescalade dans un premier temps, retour à une paix durable ensuite. Mais tout ça dépend évidemment des pressions politiques, diplomatiques, économiques, pour que cela soit respecté. Le président Lorenzo, la discussion que j'ai eue ce matin avec le président, cher Félix, et l'échange que j'ai pu avoir avec le président Kagame m'a démontré une chose, tous m'ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain, qui est prévu dans le chronogramme, sur lequel se sont engagés aussi les représentants du M23 qui sont allés voir le président Lorenzo. Il nous revient d'être collectivement à vos côtés pour faire la démonstration que ce choix est le bon. Ceux qui s'en éloigneront auront une responsabilité écrasante et s'exposeront à la sanction de l'histoire. Et dans une région où la France a su regarder en face son propre passé, nous savons combien ce poids de la sanction de l'histoire peut être accablant.
Et toujours au Nord Kivu, la chef de la MONUSCO déplore la détérioration de la situation sécuritaire qui continue à causer des morts et des centaines de milliers de déplacés dans l'est de la RDC. Bintou Keïta a révélé ce constat à la presse hier samedi à Goma, au terme d'une tournée de 6 jours dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Elle exige le respect de ce cessez-le-feu par les différents belligérants. Des détails avec Bernard Nyangui.
Pour Mme Bintou Keïta, plus de 600 000 déplacés supplémentaires depuis mars 2022 dans le petit nord du Nord Kivu. et plus d'1 500 000 déplacés en Ituri, alors qu'il y a moins d'accès pour les actions humanitaires, relève d'une situation déplorable.
Notre soutien et nos bons offices se poursuivront pour que les armes cessent de crépiter dans les provinces déjà affectées par une crise humanitaire sans précédent.
La chef de la MONUSCO qui appelle, entre autres, le 1-23, à respecter l'engagement fait vendredi à Luanda sur le cessez-le-feu à partir du 7 mars prochain, réitère le soutien de la mission pour la paix dans l'est de la RDC.
En réponse aux désinformations multiples sur une supposée inaction de la MONUSCO, je tiens à le préciser. Dans leur offensive contre le M23, les FRDC reçoivent le soutien constant de la force de la MONUSCO. Cet appui va de la planification stratégique à la planification opérationnelle.
Rappelons que l'objectif de sa tournée était de constater l'impact de la détérioration de la situation sécuritaire sur les milliers de personnes vulnérables et étudier les voies et moyens de surmonter les défis à la mise en œuvre du mandat de la mission. Cela en prélude de la visite du Conseil de sécurité en RDC prévue du 9 au 12 mars prochain. Goma, Bernardin Yangui, Radio Okapi.
Et puis, quelques familles de déplacés de Massissi et des villages environnants commencent à retourner timidement dans leurs maisons à Massissi Centre depuis 2 jours maintenant. Ces personnes avaient fui leurs entités suite à l'avancée des rebelles du M23 en direction du chef-lieu du territoire. Les unes avaient pris la direction de Nyabiondo, alors que d'autres avaient trouvé refuge dans quelques agglomérations du territoire de Walika, les voisins. Selon la société civile de Massissi, ce retour est motivé par les conditions humanitaires précaires dans les milieux des refuges, mais aussi par une certaine accalmie relative observée à Massissi Centre. Cependant, plusieurs écoles de la place restent toujours fermées, tout comme aussi les activités commerciales qui tournent au ralenti. Fort Mitondeke de la société civile territoire de Massissi donne d'autres détails ici au micro de Denise Lukesso.
Nous pensons que ce retour est d'abord motivé par cette accalmie relative qui s'observe à Massissi Centre, mais aussi il y a ces mauvaises conditions-là humanitaires que traversent les familles déplacées. Certaines familles ne résistent pas même dans les liens de refuge et ce qui les oblige de rentrer. Parce qu'en rentrant peut-être à Massissi Centre, ils seront un peu proches de leurs champs pour certains et que ces champs peuvent leur venir à la rescousse en titre de prise en charge familiale et consort. Donc, ou au fur et à mesure que la population est en train de lire la situation et de localiser surtout les derniers affrontements qui ont eu lieu en territoire, mais également de précision sur les zones occupées par l'ennemi. Les activités telles que les écoles, reste toujours fermé à Massissi Centre. Et il y a aussi les autres activités qui aussi tournent, en tout cas, au ralenti. C'est comme le petit commerce. Il y a beaucoup de gens qui avaient fermé leur commerce.
Au sud Kivu, les activités ont repris en début de soirée de ce dimanche dans la ville d'Uvira. C'est après une vive tension à la suite de la colère des jeunes après des échauffourées la nuit de samedi. Le coordonnateur du comité urbain de la jeunesse, Maître Tchako Tchangoué Bambé, dresse un bilan de 3 morts, dont un soldat des FARDC et 2 civils. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud, le général-major Ramazan Ifundi, ainsi que le commandant de la police nationale congolaise Uvira, ont réussi à calmer les jeunes en colère. Des détails avec Fiston Ngoma Mayabala.
Selon les coordonnateurs du comité urbain de la jeunesse, Maître Tchako Tchangoué Bambé, tout a commencé la nuit au quartier Kakombe, lorsqu'un militaire suspecté de vouloir cambrioler une maison a été appréhendé par de jeunes vigiles. Pour s'échapper, le militaire a tiré sur le jeune, tuant un parmi eux. Ce militaire a, à son tour, été copieusement tabassé. Gravement blessé, il a été évacué à l'hôpital pour des soins. À la suite de l'incident survenu la nuit, des jeunes en colère sont descendus dans les rues ce dimanche matin. Ils ont barricadé la route à Kasenga et à Mulongwe pour dénoncer la complicité des soldats des FRDC dans des cas de vols nocturnes perpétrés sur la ville. Pendant ces manifestations, un militaire qui tentait de se frayer un passage à côté d'une barricade de jeunes à Mulongwe s'est vu agressé par les manifestants. Voulant se défendre, le militaire a tiré dans tous les sens, tuant un autre jeune par balle. Ce militaire a été pourchassé avant d'être arrêté près de la rivière Mulongwe. Les jeunes ont ravi son arme avant de l'abattre à bout portant. D'après le porte-parole du secteur opérationnel Sokola de Sud-Sud, le lieutenant Marc Elongo, l'armée attend de contrôler toute la situation avant de se prononcer. Pour l'instant, selon lui, les forces de l'ordre et de la défense déployées sur la ville ont réussi à dégager les palissades sur la route nationale numéro 5. D'Uvira, Fistongo Momayaba, la Radio Kapi.
85 millions d'euros, c'est le montant global décaissé par le gouvernement congolais pour un contrat signé hier samedi à Kinshasa par le directeur général de l'Office des routes et son homologue de l'entreprise française Matière SA devant les chefs d'État congolais Félix Tshisekedi et français Emmanuel Macron. Ce contrat, selon le directeur général de l'Office des routes, porte sur la construction de 201 ponts en RDC par l'entreprise française. Jeannot Kikangala a dit que les travaux de construction de ces ponts prendront 3 ans. On l'écoute au micro de Paul Matendo.
Pour permettre à l'entreprise Matière de bien commencer son travail par rapport à ce contrat, il y a une avance de démarrage prévue pour cela qui tourne autour de 17 144 622 euros. Et l'entreprise Matière, par rapport à ce contrat, nous offre une garantie de bonne exécution qui s'élève à 4 286 155,50 euros. La signature de ce contrat donc a obéi à toute la procédure légale, c'est-à-dire nous nous sommes présentés devant la DGCP où nous avons obtenu des avis de non-objection par rapport à la procédure, par rapport même à la signature de ce contrat et par rapport au plan de passation de marché.
La province du Sud Kivu bénéficie de plus de 80 millions de dollars pour l'exécution du programme de développement des 55 territoires de la RDC. Le lancement officiel de ce programme a eu lieu vendredi dernier à Sangé, dans le territoire d'Uvira. Ce projet qui porte sur la régularisation du décalage entre les villes et les villages est piloté au Sud Kivu par le PNUD. Il consiste en la construction des ouvrages tels que des écoles, des centres de santé, des bureaux administratifs, des routes de dessertes agricoles, ainsi que l'appui à la production agricole. Pierre Goussira, chef de bureau du PNUD Sud Kivu, est au micro de Justine Tamwenge.
Le projet 145 territoires, c'est un des projets du PNUD dans la province du Sud Kivu. Et la particularité de ce projet, c'est que c'est un projet du chef de l'État. Et ce projet porte sur la régulation des différences et des décalages entre les villes et les villages. Alors, le milieu rural veut être aussi un peu élevé pour que les populations rurales puissent se retrouver et avoir aussi une vie plus ou moins aisée comme les autres. Alors, le projet, de manière générale, il porte sur plusieurs volets, mais les volets que nous commençons aujourd'hui, c'est un volet de construction des ouvrages de l'administration publique, dont la construction des centres de santé, dont la construction des écoles. Il y aura aussi les routes de dessertes agricoles, il y aura aussi l'appui à l'agriculture. L'argent est débloqué, le PNUD a déjà reçu du gouvernement central plus de 30% de l'argent nécessaire, c'est pourquoi c'est le PNUD qui a recruté l'entreprise. Le coût global des projets, c'est chaque territoire a droit à 10 millions de dollars. Alors comme on a 8 territoires dans la province du Sud Kivu, donc on a 80 millions de dollars. C'est un peu plus de 80 millions parce qu'il y a des ouvrages qui vont coûter un peu plus cher par rapport à leur localisation, par rapport à l'accès aux matériaux et consorts.
Dans la province de la Tchopo, les sourds et malentendants demandent à la CENI d'accréditer des interprètes en langue des signes dans certains centres ciblés pour faciliter leur enrôlement. Ceci pour lutter contre la discrimination dont sont victimes ces personnes. C'est l'une des recommandations formulées samedi dernier lors de la matinée de sensibilisation et d'information électorale sur l'enrôlement massif de cette catégorie de personnes. Matinée organisée par la CENI en collaboration avec AIFES. L'objectif visé par cette organisation internationale est l'efficacité de l'inclusion de cet électorat estimé à 5% de l'ensemble de la population de la Tchopo. Jacques Moukonkolé.
Plus de 350 sourds et malentendants ont pris part à cette sensibilisation. Il a été question notamment d'expliquer à cette catégorie de personnes qu'elles doivent se faire enrôler pour être électeurs et obliger un mandat électoral. Pour Théophilus de Wetten, directeur pays d'AIFES, les agents de la CENI doivent faciliter leur enrôlement.
Pour la première fois dans l'histoire de la CENI, une rencontre de sensibilisation avec les sourds et les malentendants pour l'expliquer exactement le processus, comment surmonter tous les défis de s'enrôler. Savoir leurs préoccupations, les autorités électorales doivent travailler sur ça pour avoir vraiment un processus inclusif.
L'occasion faisant le larron, les sourds et malentendants ont étalé les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans des bureaux d'enrôlement. Sarah Pelieng de la communauté des sourds plaide pour leur cause.
Personne ne nous facilite la tâche. Vos agents nous disent que nous ne portons handicap visible. Moi-même, je suis agent observatrice électorale. J'observe beaucoup de choses ou acte discriminatoire.
Le deuxième vice-président de la CENI se dit satisfait de ces échanges. Pour Didi Manara, des mesures urgentes seront prises pour accéder à leurs demandes. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Nigeria se prépare à élire ses gouverneurs le 11 mars prochain, alors que la commission électorale est toujours sous le feu des critiques pour sa gestion catastrophique de la présidentielle qui s'est tenue le 25 février dernier et a conduit Bola Tinubu au pouvoir. Hier samedi, la centrale électorale du Nigeria, INEC, a pourtant confirmé que les mêmes machines électroniques controversées seront utilisées lors du prochain scrutin. Et puis, des violents heurts ont opposé ce dimanche des policiers et des manifestants en face du Parlement à Athènes lors d'un rassemblement de protestation après la catastrophe ferroviaire en Grèce qui a fait 57 morts mardi soir. Des manifestants ont lancé des cocktails Molotov et la police a répliqué avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes, ont constaté des journalistes de l'agence France-Presse. Le premier ministre grec a demandé pardon aux familles des victimes dans une adresse solennelle ce dimanche.
L'invité.
L'invité de ce journal est le coordonnateur du Forum des engagés pour le développement durable en Ituri. John Lufukaribu parle du programme de protection de l'environnement dont le principal but est de proposer des mécanismes pour atténuer le problème du réchauffement climatique. John Lufukaribu dans cet entretien avec Ezekiel Mouzalia.
John Lufukaribu, bonjour.
Bonjour.
À quoi consiste cette approche, protection et conservation des ressources en eau et forêt dans les bassins versants du lac Albert?
Cette approche, c'est une approche que nous utilisons pour conserver, pour protéger les ressources en eau et les ressources en forêt. Vu qu'il y a un grand défi qui guette la planète Terre, c'est-à-dire le défi du réchauffement climatique, où chacun est appelé à contribuer et agir là où il a le pouvoir d'agir. C'est ainsi que nous avons aussi initié cette approche ou ce programme pour que nous puissions contribuer. Parce que quand on parle des défis que nous devons protéger les forêts, c'est ainsi que nous avons dit qu'il n'y a pas de forêt sans l'eau. Quand on veut parler de la crise du climat, c'est aussi la crise de l'eau. Et la crise de l'eau, c'est aussi la crise des climats.
Quelle est la nature de votre contribution, surtout dans cette partie qui est frontalière avec l'Ouganda?
Nous avons le lac Albert qui est partagé entre deux pays. Et ce lac Albert est en danger parce qu'il y a déjà des activités pétrolières qui s'effectuent du niveau de l'Ouganda. Avec le plus grand oléoduc qu'on appelle le projet EACOP qui va consommer au moins 500 millions de mètres cubes d'eau par jour pour être refroidi. La plus grande quantité de cette eau proviendra du lac Albert. Alors, il faut déjà songer à protéger cette ressource. Comme il y a déjà un danger qui guette le lac, alors pour protéger que cette eau du lac ne soit consommée ou exploitée abusivement, il faut aussi protéger les ressources qui alimente le lac Albert en eau, par exemple les rivières. Nous sommes actuellement dans le bassin de Semouliki où nous sommes en train de protéger le bassin versant du lac de la rivière Semouliki du côté congolais. Parce que si nous voyons que la rivière Semouliki avec ses zones humides dans le delta, c'est très 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 capital à ce qui concerne le changement climatique et aussi très très capital pour alimenter le lac Albert en eau.
Est-ce qu'il y a des mécanismes de protection et de conservation que vous mettez en place?
Oui, le mécanisme que nous mettons en place, nous touchons d'abord la conscience communautaire. Nous mobilisons les communautés de savoir quel est leur rôle et quelle est l'importance parce que ces ressources leur fournissent des services écosystémiques qui sont des avantages de ces ressources envers la communauté. Alors, les communautés doivent exploiter ça durablement. L'autre mécanisme, par exemple, à ce concerne le bassin versant. Devons protéger les berges, devons reboiser aussi les bassins. Parce que quand nous parlons des ressources, nous devons songer sur les plantes hydrophiles, devons faire le reboisement, la reforestation ou restauration des forêts, ainsi de suite.
Pensez-vous que la protection du côté congolais, à elle seule, suffit pour cette zone qui partage la frontière avec l'Ouganda?
Non, c'est pour cela que dans notre programme, on touche une approche transfrontalière. C'est-à-dire que nous voulons que et les communautés congolaises ainsi que les communautés ougandaises collaborent ensemble. Avec cette approche, on a misé plus sur la jeunesse. Parce que la jeunesse ougandaise et la jeunesse congolaise doivent collaborer afin qu'on puisse protéger les ressources, nos ressources transfrontalières, afin que ces ressources puissent nous fournir durablement les services écosystémiques.
Le lac Albert constitue une ressource commune qui profite tant aux Congolais qu'aux Ougandais et en même temps il constitue une source des conflits, faute des limites clairement définies sur les lacs. Comment faire de cette approche un moyen de cohésion pacifique entre les deux régions?
C'est vraiment une question pertinente parce que vous allez comprendre que la plupart de nos pêcheurs sont arrêtés, tués, et leurs engins sont confisqués par des patrouilles ougandaises. La solution n'est pas seulement arrêter les pêcheurs, mais la solution est de trouver une solution palliative, une solution commune du côté congolais et du côté de l'Ouganda. Nous devons prendre conscience que ces ressources, c'est pour nous. Donc, l'exploitation durable de ces ressources, c'est pour l'intérêt durable de nos futures générations.
John Lufukaribu, merci.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
C'était l'invité de ce journal, le coordonnateur du Forum des engagés pour le développement durable en Ituri. John Lufukaribu était à Bounia avec Ezekiel Mouzalia. Merci de continuer à réécouter ce journal sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.